Alors, on fait de l'histoire de l'Église ce soir et on va terminer d'abord ce qui concerne la Révolution française. Avant de faire un bilan global de la Révolution française, j'aimerais que nous parlions un peu, un petit paragraphe particulier sur la Révolution française et le protestantisme dans l'Ouest, parce que c'est notre région et qu'il est intéressant peut-être de savoir ce qui s'est passé. Quand nous disons l'Ouest, nous voulons dire la Bretagne, la Vendée et le Poitou. Avant la Révolution française, la Vendée en particulier faisait partie du Poitou. C'était une seule et même entité et il y avait une implantation protestante non négligeable en Vendée. Il est donc tout à fait normal de penser que la guerre de Vendée, qui a été un des éléments importants de la guerre de la Révolution française, ne soit pas restée sans incidence sur les protestants de l'Ouest. Bon, rappelons en deux mots ce que fut la guerre de Vendée. Donc les Vendéens, au nom du catholicisme, au moment justement de en quelque sorte, l'abolition du culte, ont pris fait et cause, n'est-ce pas, pour la royauté d'une part et pour le catholicisme d'autre part. Et une véritable révolte armée en a résulté. Une guerre civile, une guerre intérieure, interfrançaise, n'est-ce pas, qui a ensanglanté particulièrement le Grand Ouest. La répression bleue, c'est-à-dire républicaine, a été féroce. Ce fut une véritable politique d'extermination qui a été employée par les armées bleues. Il y eut des tentatives, n'est-ce pas, d'appeler au secours les forces, notamment ce qu'on appelait les immigrés, c'est-à-dire des nobles qui avaient fui la France au moment de la tourmente révolutionnaire, en particulier au moment où s'était déclenchée la terreur, parce que la terreur avait ceci de particulier, c'est que on n'était pas jugé ni condamné obligatoirement pour des faits ou même des paroles. On était, et c'était déjà un des précurseurs, si vous voulez, du nazisme, on était persécuté pour ce que l'on était. Et par exemple, un des crimes essentiels était d'avoir du sang noble, d'être d'une origine noble. Un certain nombre de gens, n'est-ce pas, qui n'avaient rien fait, n'est-ce pas, se sont retrouvés sur la guillotine tout simplement parce qu'ils étaient d'origine noble. Il s'agissait, n'est-ce pas, de purger la race française du sang bleu, comme on le disait à ce moment-là, c'est-à-dire de l'élément de la noblesse, du clergé aussi, hein, et des religieux, des religieuses aussi ont été guillotinés tout simplement par le simple fait qu'ils étaient religieux ou religieuses. Hein. Alors, il y a eu une émigration très importante quand on s'est rendu compte, n'est-ce pas, que finalement ce simple fait suffisait pour vous envoyer la mort, un certain nombre de gens ont fui. Et le refuge essentiel fut l'Angleterre, surtout à partir de l'Ouest, évidemment, c'est le refuge normal, habituel. Et au moment où la guerre de Vendée a éclaté, donc, les immigrés ont tenté de constituer une armée, n'est-ce pas, pour venir au secours des révoltés de Vendée. Une tentative de débarquement a eu lieu à Quiberon, qui s'est soldée par un échec sanglant. Les armées républicaines avaient été averties, les immigrés avaient été trahis, et donc des embuscades leur avaient été tendues dès le débarquement, et les immigrés ont été en général massacrés sur place, sans autre forme de procès. N'est-ce pas ? Donc ça a été une répression terrible, une répression sanglante. Alors, les églises, les lieux de culte, les couvents, les objets du culte de quelque caractère précieux sont devenus biens nationaux. Ils ont été confisqués, n'est-ce pas ? Toutes les églises ont été retirées des mains du clergé, sont devenues soit des musées, soit des lieux de plaisir, des dancing, des choses semblables. Un petit peu ce qui se passera, si vous voulez, en Russie, au moment de la révolution bolchevique, en 1917, c'est à peu près le même processus. Et les objets précieux, ciboires, statues un petit peu, ont été intégrés dans les trésors de la République. D'autres ont été fondus pour faire des canons, des statues de bronze ou des choses comme ça, des boulets de canon ou des choses semblables. Les reliques ont été profanées, détruites. Par exemple, la basilique de Saint-Denis, où étaient enterrés les rois de France, les sépultures ont été profanées, les restes des rois de France ont été traînés sur les immondices, etc. Il y avait une volonté totale, n'est-ce pas, de déchristianiser la France et de faire disparaître tous les symboles chrétiens, y compris jusque les choses qui pouvaient rappeler le culte à un degré ou à un autre. Alors, tous les biens du clergé ont été expropriés, tant et si bien que la plupart des membres du clergé se sont retrouvés dans des situations matérielles extrêmement difficiles. Et il y a eu donc une vague sans précédent de violence, de haine, d'exclusion. Et dans ce climat de lutte anti-religieuse, les révolutionnaires n'ont fait aucune différence entre catholiques et protestants. Et catholiques et protestants se sont retrouvés alors persécutés de la même manière et au même degré. Finalement, les protestants sortaient d'une ornière au moment où ils pensaient pouvoir respirer un peu, et puis après le vote par la Constituante de l'égalité des droits, n'est-ce pas, immédiatement ces droits, quelques années plus tard, ont été remis en question par la terreur, et tous ces avantages acquis ont été abolis. Les pasteurs se sont trouvés traqués exactement comme les prêtres à partir du moment où le christianisme a été mis hors la loi. Parce qu'il y a eu deux temps. Hein. Il y a eu un premier temps où une religion nationale a été mise en place. À partir du moment où les prêtres ou les pasteurs prêtaient serment à la République, ils étaient considérés comme, si vous voulez, comme un clergé licite. Et puis, dans un deuxième temps, au moment de l'accession de Robespierre au pouvoir, la religion chrétienne elle-même a été hors la loi. C'était les chrétiens en tant que tels, qu'ils soient catholiques ou protestants, qui étaient systématiquement pourchassés et systématiquement persécutés. C'était le christianisme hors la loi. Et par exemple, les vieux réflexes de haine anti-protestante, de méfiance, etc., ont ressurgi immédiatement. Et proportionnellement, les protestants ont été davantage dénoncés aux autorités républicaines que les catholiques, parce que justement il y avait ce vieux réflexe anti-protestant qui jouait constamment à ce niveau-là. Les protestants ont été aussi chassés des charges municipales, des charges de l'État, etc., qui leur ont été interdites à nouveau, comme avant le vote de l'égalité des droits, donc c'était vraiment un recul en arrière considérable. Et pour la première fois, catholiques et protestants ont été persécutés en France. Pour la petite histoire, disons que Charlotte Corday, qui était donc la jeune fille qui a assassiné Marat, était un des principaux chefs révolutionnaires. Vous savez, c'est très célèbre. Il y a un tableau de je ne sais plus qui a peint ce meurtre, n'est-ce pas, Marat assassiné dans sa baignoire. Charlotte Corday était d'origine protestante, en tout cas. Je pense qu'elle était très fervente. Enfin, elle était d'origine protestante. Et donc, toute vie religieuse a été interdite. Alors, de nombreux pasteurs se sont mis à abjurer, ce qui est quand même un petit peu extraordinaire. Ces pasteurs qui avaient tenu ferme dans les persécutions anticatholiques, en masse, se sont mis à abjurer au moment de la Révolution française. Et la plupart se sont trouvés recasés vers des carrières administratives ou juridiques. Ils sont devenus juges, ils sont devenus avocats, etc., par le fait même de leur abjuration. Et donc, si vous voulez, il y a eu là une éclipse de la vie religieuse en France jusqu'en 1795, jusqu'à la chute de Robespierre. Alors, dans l'Ouest, les protestants ont subi les conséquences de leur double appartenance. D'une part, ils étaient protestants, et deuxièmement, ils étaient vendéens. Deux crimes qui étaient absolument impardonnables à cette période-là. Donc, les Bleus, les accusaient d'être des Blancs et des chrétiens, tandis que les Blancs les accusaient d'être des traîtres, des républicains, etc. Alors, ils étaient pris entre deux feux. La situation des protestants de l'Ouest est devenue rapidement dramatique. De ce fait, de nombreux protestants ont rallié les armées blanches parce que, en défendant les Blancs, ils se défendaient eux-mêmes. En fin de compte, c'était les leurs, c'était leur famille qu'ils défendaient de cette manière-là. Bien que la majorité des bourgeois protestants avaient pris le parti des Bleus. C'était le petit peuple qui combattait plutôt dans les armées blanches. Alors, d'autres protestants ont fui la Vendée et se sont engagés dans les gardes nationaux. pour pouvoir échapper un petit peu aussi au massacre. D'autres se sont enfuis à La Rochelle et ont attendu une occasion de reprendre le chemin d'Angleterre comme avaient fait leurs ancêtres. Un certain nombre ont fui la France aussi à partir de cette période-là, ce qui a provoqué une nouvelle émigration donc des protestants. En fin de compte, si vous voulez, le Grand Ouest, au moment des guerres de Vendée, a perdu un tiers de ses effectifs. Un tiers des protestants ont disparu de différentes natures, soit qu'ils ont été massacrés par les Bleus, soit qu'ils sont morts dans les combats, soit qu'ils aient abjuré pour un certain nombre d'entre eux, soit qu'ils se soient enfuis, soit en Angleterre, soit dans le reste de la France, soit dans d'autres pays. Et en fin de compte, ce qui est quand même assez remarquable, si vous voulez, c'est la mémoire que les protestants et les catholiques ont de la Révolution française. Comme je disais tout à l'heure, les deux ont été persécutés exactement de la même manière. Je dirais peut-être même encore, à la limite, les protestants ont-ils davantage encore souffert que les catholiques de la période révolutionnaire. Et pourtant, les catholiques gardent de la période révolutionnaire un souvenir épouvantable. Pour eux, c'est l'Antichrist, c'est l'horreur, c'est vraiment le blasphème suprême, la profanation de tout ce qui était sacré en France, n'est-ce pas ? Et les protestants considèrent la Révolution française comme quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement oublié ici la période de la terreur, dans la mémoire collective, si vous voulez, hein, dans le mythe historique. Et puis on a gardé, si vous voulez, que la période de la Constituante et l'égalité des droits. C'est une manière mythique de relire l'histoire. Alors justement, ne nous laissons pas nous prendre à cette mystique-là, n'est-ce pas ? Et disons bien les choses telles qu'elles sont. Les protestants ont aussi terriblement souffert, n'est-ce pas ? Ce fut un autre épisode des persécutions qu'ils avaient suivies pendant toute la période qui va depuis la Réforme jusqu'à Thermidor. Finalement, les choses se sont améliorées un petit peu sous le Directoire, et puis ensuite se sont normalisées sous le Consulat et sous l'Empire, quoi. Bon, après, la période révolutionnaire est la dernière grande période de persécution du protestantisme. Après ça, il n'y a plus de persécution digne de ce nom dans la France moderne, la France contemporaine. Et alors, il faut dire que les protestants aussi avaient un a priori favorable par rapport aux idées révolutionnaires. D'abord parce que le fait, n'est-ce pas, que la Révolution était contre le clergé qui était quand même la bête noire du protestantisme, n'était pas pour déplaire au protestantisme, bien évidemment. Et même si les révolutionnaires avaient eu la main un peu lourde et avaient confondu un peu prêtres et pasteurs, eh bien, fondamentalement, dans les idées de base, n'est-ce pas, il y avait... Si vous voulez, ce qui était visé, c'était plus quand même le catholicisme que le protestantisme de la part justement des révolutionnaires. Alors ça, c'était un élément qui faisait qu'un certain nombre de protestants, pas mal d'ailleurs détachés de leur religion, voyaient d'un œil assez favorable le traitement qu'on faisait subir aux catholiques. La deuxième chose, c'est que beaucoup de pasteurs protestants et de protestants, n'est-ce pas, avaient été gagnés par les idées des Lumières, notamment les idées de Rousseau. N'oublions pas que Rousseau lui-même était d'origine protestante. Ils avaient été au bénéfice, n'est-ce pas, des protestations qui avaient été faites par les philosophes tels que Voltaire au moment de l'affaire Calas ou des choses semblables, tant et si bien que les philosophes des Lumières, Voltaire, Montesquieu, Rousseau et d'autres, n'est-ce pas, jouissaient dans la population protestante d'un a priori assez favorable. Et on voyait, n'est-ce pas, dans l'ordre nouveau qui était en train de se mettre en place, une possibilité pour le protestantisme de trouver la place qui lui revenait au sein de la société française. Donc, si vous voulez, les protestants ont quand même, malgré les excès de la terreur, eu un a priori favorable à l'endroit de la Révolution française. Et notamment, nous avons vu que nombre de pasteurs qui avaient abjuré ont rejoint l'administration nouvelle, la magistrature. De nombreux protestants sont entrés dans les rouages de l'administration révolutionnaire, d'autres se sont engagés dans les armées républicaines, etc., tant et si bien que les protestants ont en général soutenu le mouvement révolutionnaire. Par exemple, sur 749 conventionnels, 9 étaient d'anciens protestants. Et alors, il faut attendre la constitution de l'an 3, c'est-à-dire 1795, pour que la liberté de culte soit rétablie. Après donc la chute des robespierristes et le renouveau qui en résulte, cette constitution a donc inclus l'article suivant, qui est encore aujourd'hui d'ailleurs une à peu près en état dans la constitution française actuelle. Donc voilà ce que disait cet article. Nul ne peut être inquiété, empêché pour ses opinions, même religieuses. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois du culte, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé à contribuer aux dépenses d'un culte de la République, et la République n'en salarie strictement aucun. Voilà. Ça, c'était donc l'article qui fondait pour la première fois dans un État moderne le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et la France révolutionnaire était le premier État à inclure dans sa constitution ce principe de la séparation de l'Église et de l'État. En fin de compte, ce n'était pas tout à fait le premier quand même. La République américaine avait déjà inclus cette réalité-là, mais enfin, en des termes un petit peu différents. Là, la séparation de l'Église et de l'État était totale. Et cette séparation de l'Église et de l'État a été perçue par l'Église catholique comme une véritable catastrophe. Et par les protestants comme une véritable bénédiction. Voyez-vous, il y avait là deux sensibilités totalement différentes. Pourquoi les catholiques se sont-ils opposés ? Parce que c'était la fin du régime de chrétienté. La France, fille aînée de l'Église depuis Clovis, etc., c'était la fin. Là, c'était terminé. Or, justement, pour la même raison, mais alors pour des causes diamétralement opposées, les protestants se réjouissaient de cette fin de la collusion entre le sabre et le goupillon, entre le trône et l'autel, n'est-ce pas, qui avait marqué la vie française et qui avait fait que, justement, aucune autre foi, aucune autre spiritualité ne pouvait se développer en France à cause de cette collusion-là. Et à partir du moment où la République se déclarait neutre en matière religieuse et faisait du domaine religieux un domaine strictement privé, au nom de l'individualisme qui était celui de la Révolution française, était des idées des Lumières, n'est-ce pas ? Donc l'objet d'un choix individuel régi par des lois, évidemment, dans la mesure où il fallait bien un minimum de réglementation pour que justement les principes de liberté religieuse ou autre ne subissent aucune entrave, et que précisément les religions n'entravent pas non plus sur la liberté des autres, eh bien le protestantisme a applaudi à deux mains. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, on retrouve ce clivage. Par exemple, l'Assemblée de Marseille à laquelle nous assistions, on a longuement parlé justement de ce problème aussi de l'année de Clovis. Aujourd'hui, c'est cette année qu'on célèbre l'anniversaire du baptême de Clovis, ce que les catholiques appellent le baptême de la France. Et les instances de la Fédération protestante réunies à Marseille ont réagi vivement contre cette expression, le baptême de la France, n'est-ce pas ? Rappelant, on a voté une motion, n'est-ce pas ? Rappelant notre attachement à la séparation de l'Église et de l'État, donc telle qu'elle a été rédigée en 1795. Bon. Alors, le principe de la séparation de l'Église et de l'État a été acquis en 1795, mais il faudra attendre 1905 pour que ça entre dans les faits. En fin de compte, très vite, n'est-ce pas ? À partir du moment où l'ardeur révolutionnaire va baisser sous le Directoire et surtout, n'est-ce pas, sous le Consulat et l'Empire, l'Église catholique va trouver les moyens de si vous voulez, renier un petit peu ces principes-là, et puis petit à petit à regagner une partie des privilèges dont la Révolution l'avait dépossédée. Bon, la seule différence, si vous voulez, c'est que le protestantisme va être reconnu officiellement par les nouveaux pouvoirs, Napoléon en particulier, comme une religion licite, avec le judaïsme d'ailleurs, n'est-ce pas, et que elles auront les mêmes privilèges, si vous voulez, que le catholicisme. Ça veut dire qu'en fin de compte, au lieu d'avoir une religion d'État, comme il y en avait sous l'Ancien Régime, à partir de l'Empire, il y aura trois religions d'État. Et cette situation-là va durer jusqu'en 1905, où on va revenir justement à l'article ici de la Constitution de l'an 3, de la séparation radicale entre l'Église et l'État. Or, constamment, il y a des velléités, n'est-ce pas, en France en particulier, de revenir sur ce statut-là, notamment de la part de l'Église catholique. Et dernièrement, on a entendu même encore un certain nombre de voix s'élever dans le catholicisme, de la part du cardinal Lustiger, par exemple, pour revoir, pour quelque sorte rediscuter une espèce de concordat avec l'État. Et là, il est certain que dans ce domaine-là, les protestants, avec raison me semble-t-il, n'est-ce pas, se dressent toujours en disant « Attention, nous, protestants, nous sommes particulièrement attachés à la laïcité de l'État ». L'État, en matière religieuse, doit être strictement neutre. Il doit servir uniquement d'arbitre pour empêcher qu'il y ait des conflits qui naissent entre différentes religions et puis que, finalement, toutes les religions soient traitées sur un pied d'égalité. Dans ce domaine-là, il est certain qu'en France, il y a encore beaucoup à faire, même si dans les textes, les choses sont acquises. Il est certain que dans les faits, le catholicisme reste malgré tout religion d'État. Il suffit de voir, par exemple, la grand-messe qui a été organisée à Notre-Dame au moment des obsèques de Mitran. Qu'il y ait un service religieux privé à Jarnac, c'était légitime. S'il en avait demandé, si Mitran l'avait demandé, je ne sais pas quel genre de catholique il était, c'est aux catholiques de l'apprécier, ce n'est pas à moi. Mais par contre, au niveau de l'État, cette espèce de grand-messe où aucun représentant d'aucun autre culte n'était représenté, aucun représentant des familles spirituelles n'a eu la possibilité de s'exprimer, était quand même quelque chose d'éminemment discutable. Alors, si vous voulez, ça, c'est un des éléments qu'on retrouve jusqu'à nos jours. Alors, la Constitution de l'an 3, de septembre 1995, en fin de compte, exige aussi, en contrepartie, si vous voulez, que le clergé signe une déclaration de fidélité à la République. Ce qui est problématique à nouveau pour les catholiques, mais ne pose aucun problème pour les protestants. Et par conséquent, dès septembre 1995, la liberté de culte des protestants se retrouve rétablie pratiquement pleine et entière, si vous voulez, sur tout le territoire national. Ce qui va permettre une réorganisation des églises qui ont été décimées par cette situation-là. Alors, il faudra cette réimplantation du protestantisme, si vous voulez, va se faire par les forces vives du protestantisme local, bien qu'elles aient été considérablement amoindries. Nombre de pasteurs ont été guillotinés, d'autres se sont enfuis, etc. Alors, les pasteurs qui se sont enfuis reviennent. Puis alors aussi, il y a des missionnaires. Il y a des missionnaires, notamment anglais, qui vont venir notamment dans l'Ouest, par exemple en Normandie, peu en Bretagne encore, n'est-ce pas, il faut attendre le siècle suivant pour que ce soit, mais en Poitou, en Normandie essentiellement, en Aquitaine, des missionnaires vont venir, et notamment c'est l'époque, si vous voulez, nous allons voir ça dans les temps qui viennent, du réveil méthodiste en Angleterre. Et les méthodistes vont envoyer des missionnaires en France, et la France protestante, le petit protestantisme français qui était déjà pas trop brillant avant la Révolution française et qui a encore souffert de la Révolution française, va trouver un nouveau souffle grâce à cet apport du piétisme en général et du méthodisme en particulier. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a renaissance du protestantisme. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois. Alors, je voudrais maintenant, si vous voulez, faire un bilan de la Révolution française avant qu'on étudie justement les réveils du XVIIIe siècle. La Révolution marque la fin d'une époque et l'édification d'un nouvel édifice. C'est, en fin de compte, la fin de toutes les institutions du Moyen-Âge. Or, qu'est-ce qu'était la marque du Moyen-Âge? C'était justement cette alliance entre le trône et l'autel, entre le sabre et le goupillon, entre l'Église et l'État. La Révolution marque la fin du système de chrétienté. encore une fois, cette fin ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il va y avoir des espèces de résurgence de ce phénomène, n'est-ce pas ? Mais en fin de compte, le principe est acquis. Et finalement, au XXe siècle, il ne sera plus, d'une manière sérieuse, remis en cause. Le clergé faisait partie de la noblesse d'État, hein, et ce clergé était lié à l'État, et bien ça c'est une situation qui prend fin. C'est terminé, des privilèges du clergé. Il y a séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux qui à cette époque-là étaient imbriqués. Souvenons-nous qu'un certain nombre d'ecclésiastiques ont occupé des charges dans le domaine politique, par exemple le cardinal de Richelieu pour ne citer que lui et d'autres aussi, n'est-ce pas ? Bon, ça c'est fini, c'est terminé. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, il est stipulé dans les constitutions qui vont naître à cette période-là que le fait d'être religieux, eh bien, vous interdit d'avoir des fonctions, de participer à une fonction publique. Par exemple, même, n'est-ce pas, un pasteur ou un prêtre, en principe, ne peut pas être instituteur public. C'est encore comme ça dans la France de 1995. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos communautés ont refusé de prendre le statut de congrégation, car alors tous ceux qui travaillent en fonction publique parmi nous ne pourraient plus exercer. Vous seriez considérés comme des religieux et des religieuses, tous les accès à la fonction publique sont interdits à ceux qui ont une fonction religieuse. Non pas à ceux qui professent une religion, mais à ceux qui ont une fonction religieuse, qui ont un statut de religieux ou de religieuse. Okay. Alors, ça c'est très discutable, d'ailleurs, au point de vue de la liberté, mais enfin, c'est un héritage de la Révolution française que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans une vision protestante et évangélique, cette évolution a été bénéfique. Parce que la religion y a gagné en pureté. Elle a perdu en nombre, mais elle a gagné en pureté. Elle a gagné en estime aussi. Hein, parce qu'on n'était plus systématiquement chrétien par le fait qu'on était né dans le pays de France, hein, mais de plus en plus, le fait d'être chrétien était le fait d'un choix individuel et personnel, ce qui est profondément évangélique. Encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. À partir de septembre 95, hein, mais le principe en était acquis. Et bien que les catholiques, jusqu'à nos jours, aient fait tous leurs efforts pour freiner cette évolution-là, et la font encore, n'est-ce pas ? Font leurs efforts pour la freiner, eh bien, le mouvement était en marche d'une manière irrésistible, et même aujourd'hui, le catholicisme devient de plus en plus quelque chose qui repose sur un certain volontariat, n'est-ce pas, de gens qui sont engagés. Il y a la masse des catholiques nominaux qui sont encore officiellement considérés comme catholiques parce que ça fait partie de la théologie de l'Église catholique. Mais dans la réalité, aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Église catholique fonctionne un peu comme une Église qui n'est plus véritablement, qui est à mi-chemin entre l'Église de professants et l'Église de multitude, en fin de compte, quoi. Alors ça, c'est heureux. Maintenant, pour ce qui est de l'Église catholique, justement, cette tourmente épouvantable, n'est-ce pas, qui va laisser le catholicisme traumatisé pour des générations, le catholicisme français. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, parler à un catholique traditionnaliste de la Révolution française, c'est évoquer le pire des épouvantails qui puisse être. Alors la réaction du clergé français va être de se rapprocher de Rome. Là, les révolutionnaires vont arriver aux antipodes de ce qu'ils avaient cherché. Ils avaient cherché à ressusciter le vieux courant gallican, n'est-ce pas ? Ça veut dire la rupture avec Rome, ou en tout cas une certaine indépendance vis-à-vis de Rome. Ils vont réussir, au contraire, à resserrer les liens entre la France, entre le clergé français et Rome. Bon, ils vont aussi donner de nombreux martyrs, et le catholicisme s'entend au culte des martyrs. Hein, ça, il est certain qu'ils sont assez doués pour ça. Et alors, les papes vont canoniser un certain nombre de guillotinés de la terreur qui vont être présentés à la piété populaire. Et finalement, ce sera une espèce de manière pour le catholicisme de tenter de regagner un petit peu les positions perdues. Alors ça va être un petit peu difficile pour les révolutionnaires. Bien sûr, pendant un temps, le problème de la constitution civile du clergé a semblé donner raison aux révolutionnaires. Effectivement, les relations entre la France et Rome ont été interrompues à ce moment-là. Il y a eu une espèce de triomphe momentané du gallicanisme. Mais c'était un triomphe imposé, si vous voulez. Et dès que les choses sont rentrées dans l'ordre, après 1995, eh bien, les liens avec Rome se sont renoués beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant. Dans l'idée de la constitution de l'an 3, les ministres des cultes étaient en fait de simples employés d'État. Donc, si vous voulez, le clergé avait perdu son aura, il n'y avait plus de noblesse, n'importe comment, n'est-ce pas ? On l'avait décapité au sens propre du terme. D'après ce qui était la constitution civile du clergé, d'ailleurs, même des laïcs non-croyants pouvaient élire les prêtres et les évêques, ce qui était un petit peu, d'ailleurs, incomple. J'ai parlé de la suppression du calendrier des fêtes, l'institution d'un calendrier républicain, avec, n'est-ce pas, le désir de créer une religion populaire. Alors c'est amusant, n'est-ce pas, les révolutionnaires avaient calqué exactement la religion chrétienne, il y avait un baptême républicain, ça existe encore d'ailleurs. Il y a des gens qui font baptiser leurs enfants avec du baptême républicain, et logiquement, dans toutes les mairies, tout maire qui se respecte est tenu, n'est-ce pas, de pratiquer le baptême républicain par ceux qui en font la demande. Des fêtes, n'est-ce pas, des fêtes à caractère vaguement religieux qui étaient proposées à la nation, n'est-ce pas. Il y avait toute une espèce de folklore national-religieux, n'est-ce pas, qui avait été créé à ce niveau-là. Et ça avait culminé avec novembre 93, le fameux culte de la déesse raison, une espèce d'actrice plus ou moins prostituée avait été traînée sur un char triomphal à Notre-Dame, après s'être costumée en déesse raison, et puis enfin c'était un culte absolument grotesque, n'est-ce pas. Le culte de l'être, on appelait ça le culte de l'être suprême et de la déesse raison, qui étaient les deux divinités qui avaient été instaurées par Robespierre. Un certain nombre de prêtres réfractaires avaient accepté de servir de clergé à cette espèce de mascarade-là. Bon, ça n'avait pas duré longtemps, évidemment. Et dès la chute de Robespierre, le culte de la déesse raison et de l'être suprême, on n'en a plus parlé rapidement. Alors, un certain nombre de prêtres aussi avaient été déportés. C'était le début du bagne de Cayenne en particulier, qui a été le fait de prêtres réfractaires qui avaient été donc envoyés là-bas. Mais alors, ce qui a été aussi quelque chose de très négatif, si vous voulez, pour la France, c'est qu'à partir de cette période, toute la vie publique et jusqu'à maintenant a été empoisonnée par la haine religieuse. Est né un courant de haine religieuse entretenu volontairement, sciemment par la Révolution, qui a donné naissance à un laïcisme agressif dans notre pays, qui n'a pas son équivalent nulle part, autant que je sache. Il faudrait peut-être... qui a eu son équivalent dans les pays de l'Est pendant la période du communisme, mais qui, dans aucun autre pays démocratique européen, n'a une telle agressivité. Ce courant-là, il connaît des hauts et des bas. Il y a des moments où il est plus fort, où il y a des moments où il est moins fort, mais plus ou moins, c'est une des composantes de notre communauté nationale, n'est-ce pas ? Le courant laïque anticlérical, comprené antireligieux, finalement opposé à tout ce qui est religieux et qui distille la haine. Et alors, à partir de cette période-là, il y a eu lieu en France, même au niveau des campagnes en particulier, une importante, on appelait la déchristianisation. Les envoyés du gouvernement sillonnaient les villes, les campagnes, et se livraient à une propagande religieuse effrénée, antireligieuse effrénée, n'est-ce pas ? Ridiculisant les prêtres, ridiculisant les dogmes de la religion chrétienne, ridiculisant finalement tout ce qui avait été les bases de la société d'alors. Et cette vague antireligieuse a marqué profondément la mentalité française, qui est restée très 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 soupçonneuse, disons, de tout ce qui était religieux jusqu'à nos jours, n'est-ce pas ? Même des gens qui ne sont pas foncièrement anti-religieux sont marqués, n'est-ce pas, par cette espèce de suspicion, de rejet presque automatique, si vous voulez, de tout ce qui est religieux au sein de la population française, et qui est un phénomène assez unique en Europe. Il y a peu de pays européens où on trouve je n'en connais pas, en tout cas en Europe de l'Ouest, n'est-ce pas? Mais là, c'est pas simplement quelque chose, si vous voulez, qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est ancré dans l'âme française, dans le psyché de la France, n'est-ce pas, du peuple français, et qui fait que la France est un des pays les plus rationalistes qui soit et les plus difficiles à toucher par l'Évangile. Ça, c'est sûr que tous ceux qui, par exemple, tous les missionnaires qui ont travaillé en France venant de pays étrangers ont constaté que la France, de tous les pays d'Europe, était le pays le plus dur dans l'évangélisation à cause justement de cet esprit sceptique, de cet esprit douteur, n'est-ce pas, de cet esprit frondeur aussi par rapport à tout ce qui était religieux, qui est le propre du peuple français et qui est l'héritage justement de cette haine religieuse qui avait marqué l'époque révolutionnaire. En 1797, pendant ce qu'on appelait les guerres de la Révolution, puisque évidemment la France a provoqué contre elle une espèce d'unanimité de l'Europe, parce que les princes européens, quand la France leur a jeté en signe de défi la tête d'un roi, n'est-ce pas, les pays européens ont compris que bien ils étaient les prochains sur la liste noire. Et donc, toutes les puissances européennes se sont liguées contre la France. Et alors, ça a été la fameuse mobilisation de l'an 2, c'est pas la conscription, ce qui a été d'ailleurs une tradition nationale qui est restée depuis, et on voit combien, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, on a du mal avec cette espèce d'inconscient collectif, n'est-ce pas, au moment où la conscription sur le plan militaire ne se justifie absolument plus, il y a des gens qui veulent garder absolument la conscription aujourd'hui parce que ça fait partie de notre héritage national. Bon, enfin, c'est là que c'est né, n'est-ce pas, il y a eu la levée en masse des jeunes gens pour aller défendre la patrie menacée. D'ailleurs, c'était une espèce de propagande effrénée nationaliste et militariste, hein, il ne faut pas se le cacher, qui a fait que, effectivement, les armées françaises ont été un peu partout victorieuses, soulevées qu'elles étaient par un enthousiasme patriotique qui était inconnu jusqu'alors dans le reste de l'Europe, quoi, hein. La révolution avait touché une certaine fibre populaire et nombre de jeunes gens étaient prêts à mourir pour les idéaux révolutionnaires dans lesquels ils voyaient l'avènement d'une société nouvelle, de lendemain qui chante. Cet élan des armées révolutionnaires les a entraînés jusqu'à Rome, n'est-ce pas, jusque dans les états du pape. D'ailleurs, les états de l'Église ont été réduits comme conséquence de la Révolution française. Et le pape Pie VI a été emprisonné à Valence jusqu'en 1789. Et pendant 2 ans, n'est-ce pas, les révolutionnaires ont fait régner à Rome même une terrible persécution qui a donné un avant-goût aux pays voisins de ce qui les attendait si un jour la Révolution submergeait l'Europe. Or, c'est ce qui s'est produit, effectivement. Cette révolution qui naît en France a fini par submerger l'Europe, d'une part dans l'élan dans la foulée des armées napoléoniennes, bien que la révolution napoléonienne était quelque peu moins brutale, si vous voulez, que la révolution robespierriste, mais quand même les principes de 89 étaient quand même ceux auxquels Napoléon se référait. Et puis ensuite, finalement, au milieu du siècle suivant, n'est-ce pas, à peu près tous les pays d'Europe seront touchés par les idées de 89 et une série de révolutions secouera l'Europe tout entière, n'est-ce pas, avec des résultats divers, mais finalement qui aboutiront à une espèce d'universalisation des principes de 89. Hein. C'est pourquoi la France, les Français sont tellement fiers de leur révolution, sont tellement fiers de leur pays, parce que finalement, peu ou prou, le monde entier a fini par adopter les principes révolutionnaires de 89, n'est-ce pas ? Chacun fait ce qu'il veut dans ce domaine-là, mais enfin, c'est ce qui s'est produit dans les faits, on n'a pas à y revenir. Bon, et la révolution a créé en Europe une atmosphère qui a permis l'évolution de cette dernière vers la démocratie, l'égalité des hommes. Si vous voulez, c'est côté considéré comme une espèce de réforme laïque. Hein. Mais par les protestants, si vous voulez, ça a été considéré aussi comme une seconde réforme, effectivement, et comme le triomphe un petit peu des idées protestantes. C'est d'ailleurs une idée que des historiens modernes, comme Jean Bobreau, par exemple, reprennent, en disant finalement le protestantisme, qui était absolument minoritaire, a fini par convertir la société française tout entière au protestantisme. Ça me paraît un peu excessif, d'ailleurs, comme idée. Enfin, il veut dire par là que le protestantisme a répandu ses idées de démocratie, d'égalité, des droits de l'homme, etc., à la France tout entière. Donc, le protestantisme ayant atteint ses buts peut maintenant disparaître. Bon, c'est un peu court aussi, parce que finalement, que des idées telles que démocratie, égalité, droits de l'homme, etc., faisaient partie de la conception protestante, d'accord, enfin, c'était quand même pas l'essentiel. Il y a quand même autre chose dans le protestantisme. Et finalement, cet essentiel-là, ce que n'est pas passé dans la société française, loin s'en faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et par conséquent, le protestantisme est loin d'avoir terminé son rôle en France, comme contrairement à ce que pensent des gens de ce type-là. D'ailleurs, il y avait un dossier qui a été publié il y a peu dans un hebdomadaire français, je ne sais pas si c'était Le Point ou Le Point, c'est pas, qui reprenait grosso modo ce genre de thèse. Bon. Alors, autre point, n'est-ce pas, c'est que la Révolution française a provoqué la disparition de l'autorité des princes et puis le triomphe de l'individualisme humaniste. Et ça, ça devait avoir des conséquences aussi très discutables pour l'avenir, n'est-ce pas, et beaucoup de maux de notre société moderne, n'est-ce pas, viennent de ce triomphe de l'individualisme humaniste. Primat de l'individu, ça veut dire le désir de casser tous les groupes, y compris la notion même de famille. D'ailleurs, des gens comme Robespierre avaient comme projet, n'est-ce pas, d'élever les enfants dès leur plus jeune âge dans des espèces de crèches, les enlever à leurs parents, leur donner une éducation républicaine, les faire vivre en communauté, etc., dans des espèces de communes vaguement socialistes, etc., un petit peu à la manière de ce que pensaient les révolutionnaires russes de 1917, quoi, hein. Bon, il a heureusement pour nous pas eu le temps de mettre en pratique ses idées, mais il avait ça dans ses plans, il avait ça dans ses idées. C'était véritablement un bouleversement total de toutes les structures de la société, y compris de la famille. Hein. Le but étant de privilégier deux groupes, simplement deux entités, l'individu et l'État. Et l'individu, et puis finalement, pour coordonner un petit peu cet ensemble d'individus, l'État. Un État donc totalitaire, un État tout-puissant. Eh bien, aujourd'hui, ces idées-là sont en train de se concrétiser, sont en train de se réaliser. Et c'est un des grands dangers de ce temps, mais ça aussi nous le devons à la période révolutionnaire. Bon, voilà, j'en ai terminé, si vous voulez, avec la période révolutionnaire. Peut-être qu'avant d'entamer un nouveau chapitre, on pourrait peut-être laisser un temps pour des questions sur cette période révolutionnaire, si vous en avez du moins. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Oui. Bon, alors on va entamer maintenant un nouveau chapitre, si vous voulez. L'affaiblissement de la foi au sein du protestantisme comme conséquence justement de la tourmente révolutionnaire. Il est évident que la tourmente révolutionnaire n'a pas eu des effets spirituels tellement bénéfiques sur le protestantisme. Et au niveau des églises officielles, eh bien, le protestantisme a gardé moins bien sa doctrine que l'Église romaine. Ça, c'est un des premiers. C'est pas la première fois que ça se produira, hélas, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il y a un parallèle entre notre époque aussi qu'on peut faire. Mais finalement, dans l'ensemble, le protestantisme a moins bien tenu que le catholicisme face à la persécution. Alors que dans les périodes où il était persécuté par le catholicisme, le protestantisme a réussi à tenir ferme et même à provoquer quelques redressements tout à fait spectaculaires, comme par exemple le réveil des Cévennes que nous avons étudié au début du siècle, n'est-ce pas ? Là, ça a été beaucoup plus mitigé. C'était pas d'ailleurs un phénomène qui était unique à la France, n'est-ce pas ? Qui était simplement le fait de la tourmente révolutionnaire, mais il y avait dans toute l'Europe à cette période-là, comme résultat des idées des Lumières, un affaiblissement général de la foi. Et encore une fois, un peu partout en Europe, les protestants se laissaient gagner par les idées des Lumières. L'idée de la bonté naturelle de l'homme, donc, si vous voulez, l'idée que la Bible était aussi un ensemble de mythes, qu'il fallait en garder que l'enseignement moral et laisser de côté l'enseignement spirituel, et que finalement, c'était, on pouvait en quelque sorte évacuer tout ce qui était l'idée de la rédemption, l'idée des miracles, l'idée de la résurrection, bien entendu, la conception virginale. Jésus n'était qu'un simple homme, Jésus n'était qu'un exemple dont il fallait suivre la trace. Voilà, en gros, si vous voulez, à quoi était réduite la doctrine protestante dans de nombreux pays. C'était le cas en Angleterre, par exemple, dans l'Église anglicane. L'Église anglicane était à peu près réduite à cette période-là. Et ce genre de doctrine conduisait à une mondanité et à une inconduite effrayante. Le clergé anglican, à cette période-là, était dans une situation morale absolument lamentable. Les luthériens ont été gagnés. C'est l'époque où naît la critique rationaliste que nous étudions actuellement aussi en doctrine, n'est-ce pas ? Et les luthériens d'Allemagne, les luthériens de Scandinavie vont adopter officiellement, n'est-ce pas, les principes de la critique de la Bible. Ça veut dire que l'idée que la Bible est une œuvre humaine et pas véritablement la parole de Dieu. Par conséquent, il faut la démythifier. Par conséquent, il faut l'expliquer rationnellement. Le rationalisme va être le critère au travers duquel on va lire la Bible. Et tout ce qui est contraire à la raison, du moins ce qui semble contraire à la raison, va être évacué de la Bible. Ça veut dire tous les miracles, ça veut dire tout ce qui... Puis la résurrection, la rédemption, la vie future, toutes ces choses-là, il n'en reste rien. Il n'en reste rien dans le protestantisme de cette période-là. C'est l'époque où les réformés, par exemple, vont supprimer un certain nombre de dogmes qui leur sont chers, celui de la prédestination, par exemple. C'est la fin du calvinisme pur et dur, si vous voulez. Et puis, d'autres points essentiels vont ainsi disparaître aussi. Bon, maintenant, il y a eu des réactions dans ce domaine-là. Bon, il y a eu aussi carrément des dénominations rationalistes qui se sont créées à cette période-là. Des églises qui se sont voulues ouvertement rationaliste, basé sur de telles croyances. Par exemple, ce fut le cas en Suède à cette période-là. Des gens qui niaient les peines éternelles, qui niaient l'enfer, etc. Qui niaient la Trinité, par exemple, ce fut le cas en Transylvanie. Et puis, donc, qui finalement finissaient par se fondre dans le monde, parce que c'était le seul qui avait véritablement perdu sa saveur. Alors, on pouvait se demander, si vous voulez, dans cette période, dans cette Europe des Lumières, si le protestantisme, pour ne parler que de lui, avait encore un avenir. Mais Dieu veillait, heureusement, n'est-ce pas ? Et il y a eu un certain nombre de réactions. Il y a eu d'abord des réactions individuelles de protestants qui ont été des protestants remarquables, qui n'ont pas permis que la foi vivante s'éteigne véritablement. Ce fut le cas, par exemple, du pasteur réformé Abadi, ces dates 1654-1727, et puis deux musiciens, dont les deux plus célèbres sont évidemment Jean-Sébastien Bach, 1685-1750, qui était un homme non seulement de grand talent sur le plan artistique, sur le plan musical, peut-être le plus grand musicien qui ait jamais vécu, enfin du moins c'est ce que je pense, mais aussi qui était un chrétien absolument convaincu. Un chrétien consacré, un chrétien d'une grande valeur spirituelle. D'ailleurs, peut-être cela explique-t-il aussi le fait qu'étant un si grand chrétien, il fut aussi un si grand musicien. Je ne pense pas qu'il aurait pu être un si grand musicien s'il n'avait pas été un si grand chrétien. Et puis, citons également Georg Friedrich Händel. Alors, Bach était chantre de la chapelle Saint-Thomas de Leipzig. Souvent les musiciens de cette période-là étaient au service de nobles. Et alors lui, il était Kapellmeister, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on traduit ça comment, maître de chapelle, voilà. Donc dans la cour de... C'était la Saxe. Je crois que c'était la Saxe. Et Leipzig, c'était la Saxe. Et là, il donc avait pour charge de diriger, si vous voulez, toute la partie musicale du culte luthérien. Donc, il avait chorale, il avait orchestre de chambre, souvent des musiciens qui n'étaient pas de très grand talent d'ailleurs, et avec lesquels il faisait des prodiges. Bon, il était maître d'orgue, il tenait les orgues, bien sûr, ce qu'il a abandonné d'ailleurs à la fin de sa vie, il a laissé la place à un autre. Et puis alors, il avait aussi pour charge d'écrire une cantate par semaine pour le culte du dimanche. Alors, une cantate qui encadrait le sermon du pasteur. Il y avait la cantate était en deux parties en général. Il y avait une première partie qui introduisait la prédication qui allait suivre sur le thème, sur le verset qui allait être développé par le pasteur. Et puis, à la fin de la prédication, la deuxième partie de la cantate reprenait ce thème et puis le développait, quoi. Alors, chaque cantate de Bach est un véritable chef-d'œuvre. Alors, il n'écrivait pas toujours quelque chose de nouveau à chaque fois. Vous savez, à cette période-là, on n'avait pas des droits d'auteur et des copyrights comme aujourd'hui. On ne considérait pas comme quelque chose de déplacé que de plagier quelqu'un d'autre. Et souvent, Bach adaptait, par exemple, des chorales de ses devanciers sans aucun scrupule, parfois même, d'ailleurs, des choses de Vivaldi qu'il adaptait, etc. Il reprenait, par exemple, des thèmes de concerto profanes qu'il adaptait à ses cantates ou bien d'autres œuvres qu'il avait écrites, etc. Enfin, il avait ce travail à faire. Donc, chaque semaine, il devait écrire et monter une cantate. Alors, vous imaginez le travail. Puis, en plus de ça, avec tout ce qu'il a écrit au niveau de musique profane, les concertos, les pièces pour différents instruments, clavecin, piano, flûte, etc. J'en passe des meilleurs. On se demande quelle était la capacité de travail de cet homme-là. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Bon, beaucoup de ses œuvres nous ont été perdues, malheureusement. Il y a quand même près de 200 cantates qui nous sont parvenues, sans parler de passions. Alors, les passions, c'est des cantates infiniment plus élaborées. Il y en a deux qui nous sont parvenus en tout et pour tout, n'est-ce pas? La passion selon Saint Matthieu et la passion selon Saint Jean, et puis un oratorio de Noël. Plus alors des pièces latines aussi, parce qu'on chantait parfois en latin aussi dans l'église luthérienne, qu'il a rassemblé à la fin de sa vie pour en former donc un certain nombre de pièces latines. Qu'on appelait messe en si. En fin de compte, c'est pas véritablement une messe au sens catholique du terme. Ce sont en fait tout ce qu'il a écrit en latin, si vous voulez, toutes les pièces latines qu'il a écrites. Bon, ensuite, il faut citer Georg Friedrich Händel, j'en parlais tout à l'heure, qui lui était d'origine allemande et qui a été alors musicien officiel de la cour d'Angleterre. Qui était un homme au départ qui n'avait pas la même profondeur spirituelle que Bach. C'était un homme qui écrivait des choses religieuses parce que ça faisait partie de son cahier des charges. Il écrivait aussi bien des choses profanes pour les divertissements royaux ou des choses comme ça, n'est-ce pas ? Et puis des opéras, il a écrit beaucoup d'opéras aussi. Et puis à la fin de sa vie, n'est-ce pas, il est devenu de plus en plus, ça fait s'est rapproché de Dieu. Et il a écrit beaucoup d'oratorios, c'est-à-dire si vous voulez, d'une espèce de cantate sur des thèmes sacrés, quoi, hein, dont le plus célèbre est évidemment le fameux Messie, n'est-ce pas, qu'il a écrit d'ailleurs à la fin de sa vie, au moment où il était passé par un moment particulièrement difficile, également sa carrière, il était un peu méprisé, etc., puis ça l'a remis en selle. Bon, citons également, alors Händel, c'est 1685-1759. Donc, il est mort un peu après Bach. Bon, ensuite, il y avait en Allemagne aussi une sécularisation extrêmement importante à la suite de la Révolution française. Parce qu'à la suite de la Révolution française, une partie de l'Allemagne, notamment la rive gauche du Rhin, a été occupée par les armées révolutionnaires françaises. Et la politique de déchristianisation qui avait été celle des armées révolutionnaires en France s'est aussi opérée sur la rive gauche du Rhin en Allemagne. Et ce qui fait que là aussi, il y a eu des conséquences très, très, très néfastes, notamment persécution du clergé avec confiscation des biens ecclésiastiques. Bon, lorsque la domination française a pris fin, les choses sont rentrées dans l'ordre en Allemagne et les conséquences ont été beaucoup moins durables en Allemagne qu'elles ne l'ont été en France. Mais les choses étaient préparées pour une évolution ultérieure. Il y avait une espèce de préparation philosophique qui avait précédé l'occupation française aussi, qui fait que cette partie de l'Allemagne a été touchée aussi par l'affaiblissement de la foi. C'était une région qui était essentiellement catholique et le résultat de la Révolution française et de l'occupation des guerres, donc de la Révolution, a été un affaiblissement de l'influence catholique en Allemagne. Le protestantisme n'a pas tellement été touché par les guerres révolutionnaires, mais c'est le catholicisme qui en a plus fait les frais, et notamment le fait qu'une partie de la puissance de l'Église catholique en Allemagne reposait sur sa puissance économique. Or, cette puissance économique a été mise à mal par les guerres révolutionnaires, et le catholicisme allemand ne s'en est pas remis, finalement, de cette affaire-là. Les églises protestantes en ont profité pour reprendre l'avantage sur le catholicisme en Allemagne. Et après le départ des troupes françaises, les églises catholiques sont passées sous la tutelle de la police d'État avec des tracasseries diverses, n'est-ce pas ? Une espèce de petite, enfin oui, une persécution, disons le mot, n'est-ce pas, de la part des protestants à l'endroit des catholiques allemands, n'est-ce pas, qui a été rendue possible par les guerres révolutionnaires. Par exemple, en Rhénanie, toutes les places ont été réservées ensuite aux protestants dans l'administration, dans le gouvernement, etc. Les catholiques ont été systématiquement éliminés de toutes ces responsabilités-là. Bon, c'est pas tellement glorieux de la part des protestants, faut le dire, il faut avoir le courage de le reconnaître. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu quelles ont été les conséquences de cette période révolutionnaire. Alors, en principe, on pouvait se demander quel serait l'avenir du protestantisme en Europe. Mais, comme je disais tout à l'heure, Dieu veillait. Et outre la résistance d'un certain nombre de chrétiens remarquables, tels que Abadi ou tels que Bach Wendel, n'est-ce pas, il va y avoir alors là des mouvements de réveil que Dieu va susciter à cette période-là, à un moment où, en principe, l'apparition de tels mouvements de réveil est tout à fait surprenant. Et ces différents mouvements de réveil, on les groupe sous un vocable général qu'on appelle le piétisme. Le piétisme qui va naître au XVIIIe siècle en Allemagne, d'abord, n'est-ce pas, avec les frères moraves, le réveil des frères moraves sous la direction du comte de Zinzendorf, et puis surtout, n'est-ce pas, en Angleterre, avec le mouvement wesleyen, le méthodisme, ce qu'on appellera le méthodisme, qui va ensuite se prolonger aux États-Unis avec le grand réveil, les grands réveils de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que nous allons étudier dans les temps qui viennent. Nous allons rester là, si vous le voulez, pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?